Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons faire une émission sur l'Ayurveda et la nourriture. Et pour cela, donc, j'ai la chance d'avoir avec moi Nathalie Kunitz qui va m'interroger. Donc moi, je suis Catherine Brault, donc j'ai fait plusieurs émissions. Je suis professeure de yoga, thérapeute ayurvédique. J'ai passé beaucoup de temps en Inde. Et j'ai un centre de yoga et d'Ayurveda sur Angers. J'organise des voyages régulièrement en Inde et aussi dans d'autres pays. Et en France, des stages en France. Donc voilà, là je vais laisser Nathalie se présenter.
Oui, bonjour. Donc Nathalie Cummings. Donc je suis pharmacien. Enfin, j'étais pharmacien au comptoir depuis 30 ans. Donc avec des spécialisations axées sur l'homéopathie, diététique, phytothérapie, dermatologie, enfin j'ai plusieurs spécialisations. Puis j'ai fait un grand virage et actuellement j'ai quitté le domaine pharmaceutique et je pratique des soins énergétiques en tant que maître Reiki Kundalini, donc sur place et à distance. Et je fais aussi des consultations individuelles en lecture d'archives akashiques. Voilà, donc aujourd'hui nous en sommes à la nourriture et l'Ayurveda. Donc Catherine, si tu veux bien commencer. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter les émissions précédentes, peux-tu nous faire peut-être un rappel de ce qu'est l'Ayurveda ?
D'accord, alors l'Ayurveda, donc si on prend Ayur et Veda, c'est un mot sanskrit. Ayur, ça signifie la vie, mais un mot sanskrit a toujours plusieurs significations. Donc c'est la vie, c'est la longévité. Et Veda, c'est la connaissance. Hein, les Védas sont des textes sacrés en Inde, donc c'est la compréhension, la connaissance donc de la vie, hein, de la vie, de la longévité, comment vivre en bonne santé au jour le jour. En fait, l'Ayurveda, donc, c'est une médecine reconnue en Inde, qui existe depuis 5000 ans avant Jésus-Christ, et c'est une médecine en fait qui a une part divine, qui a une part de croyance, dans le sens où on pense que ce sont les dieux qui ont transmis ce savoir aux sages de l'Inde. Et puis il y a une part scientifique, hein, pour devenir un médecin ayurvédique, il y a 10 ou 15 ans d'études avec des spécialisations, comme en France pour devenir un médecin allopathe. Donc la médecine ayurvédique, ce qui est intéressant dans la médecine ayurvédique, c'est que on dit que la nourriture et le mode de vie, c'est ce qui est le plus essentiel. Eh bien, la médecine, c'est-à-dire les médicaments, viennent quand ça ne suffit plus, le mode de vie et la nourriture. Et un bon médecin ayurvédique, il n'a pas de malade. Dans les villages indiens, ça c'est une histoire que je vous ai déjà dite, mais dans les villages indiens, en fait, un bon médecin ayurvédique n'a pas de malade. S'il a quelques malades, en fait, son salaire est divisé par deux. Et si tout le village est malade, il faut qu'il change de métier. Donc c'est pour dire que la médecine ayurvédique est une médecine préventive. Hein. Et si l'on suit, si on connaît sa constitution, et si l'on suit un bon régime alimentaire en fonction de sa constitution et un bon mode de vie, en fonction de qui on est, et bien à ce moment-là, la maladie ne va pas apparaître parce qu'il y aura l'équilibre.
D'accord, donc est-ce que tu peux nous parler, nous dire un petit peu en quoi consistent ces modes de vie ayurvédiques ?
D'accord. Alors, dans l'Ayurveda, en fait, ce qui est important, c'est de prendre une nourriture qui a grandi naturellement, sans produits chimiques. Donc, c'est la nourriture qui est la meilleure. Et puis dans l'Ayurveda, ce qui est très important, c'est le lieu, c'est-à-dire si on peut prendre une nourriture qui est de notre lieu, hein, qui a grandi sur notre terrain en France par exemple, et puis une nourriture, comme je vous ai dit, naturelle. Et puis si c'est un peu difficile de ne pas prendre par exemple des fruits, de ne pas manger des fruits d'ailleurs, c'est une nourriture moins de saison, hein, c'est d'être en lien, en harmonie avec notre milieu naturel, le milieu environnant. Donc ça, c'est essentiel. Et puis, un autre point, c'est d'avoir au maximum des produits frais.
Donc, des produits du terroir, des produits frais.
Voilà, des produits frais, c'est-à-dire des produits... En fait, en Ayurveda, dans l'ashram où j'étais, où il y avait une clinique ayurvédique, on n'utilisait pas le réfrigérateur. Et bien sûr... On ne congelait pas, on faisait la nourriture au jour le jour pour les gens. Et s'il n'en restait pas, s'il en restait, on le donnait aux animaux.
Pas de reste, donc.
Pas de reste, non. Et aussi, de mettre de la conscience quand on mange. C'est-à-dire de ne pas manger si on est énervé, si on a des émotions trop fortes, il vaut mieux s'abstenir de manger. Parce qu'autrement, la digestion ne va pas se faire bien.
Ah oui.
Et c'est pour ça qu'en Inde... Eh bien, quelquefois, ils mangent en silence. Aussi, pour être bien dans la conscience et dans le calme, quand on mange, pas manger dans la précipitation. Et bien sûr, une nourriture de qualité, comme j'ai dit, des aliments frais, de saison. Et aussi, ne pas trop manger.
Pas trop, c'est-à-dire, nous, les Occidentaux, on mange quand même 3 repas par jour, enfin, les petits-déjeuners, etc. Donc là, en Inde, c'est pas le même principe.
Non. Alors, en Inde, ou selon l'Ayurveda, parce que tout le monde ne suit pas l'Ayurveda. Oui. Donc, en fait, c'est bien d'avoir, c'est vrai, 2 repas par jour. Un après le lever du soleil. Et l'autre, avant le coucher du soleil. Hein, ça veut dire, juste après le lever du soleil, entre 8h et 10h du matin. Et après le soir... entre 18h et 20h. Donc c'est vrai que ce ne sont pas nos habitudes. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, ça permet de mieux digérer. Hein, le soir, on digère et après on va se coucher. Donc voilà. Et puis aussi, ce qui est important, c'est de ne pas trop manger. Alors, pas trop manger, pas d'accumuler les repas, de multiplier les repas. Parce que pour laisser le temps à l'organisme d'intégrer les aliments qu'il a pris, quoi, de digérer. Hein, et la digestion, en Ayurveda, c'est l'essentiel. Et puis aussi, on dit que après un repas, pendant un repas, on doit prendre un tiers de nourriture solide, un tiers de liquide et un tiers de vide. C'est-à-dire, ça, il y a beaucoup de nutritionnistes qui le disent, et peut-être que toi, tu as aussi le même discours, c'est que, en fait, quand on sort d'un repas, eh bien, on a faim, quoi. On a un petit peu... Voilà, on n'est pas rassasié. Parce qu'autrement, vous vous souvenez peut-être, et puis je vais en reparler, mais autrement, ça crée des déséquilibres. Et quand ça crée des déséquilibres, ça amène la maladie. Et puis, l'important aussi de bien mâcher, de prendre conscience de ce qu'on fait. On dit, quelquefois, en Ayurveda, on dit que ce qui est solide devient liquide et ce qui est liquide devient solide, c'est-à-dire qu'on prend conscience du liquide aussi. Et puis, ce qui est important, c'est d'essayer de ne pas trop boire pendant les repas, prendre un peu d'eau chaude avant chaque repas et recommander toujours pour l'histoire de la digestion. Plus mieux on digère, eh bien, moins on va avoir de gaz, de problèmes après, et puis amener la maladie, quoi, en fait, si on n'a pas une bonne digestion. Donc, voilà, pour l'essentiel, j'ai certainement oublié des choses parce que c'est très, très précis. Hein. Donc, le climat, aussi en fonction de sa constitution.
Oui. Alors, justement, en parlant de constitution, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les différentes constitutions et,
voilà.
Parce qu'on dit, on parle de 3 ou 7 constitutions en fonction, donc...
Voilà. Alors, je vais vous rappeler, je l'avais fait déjà dans une émission. Donc, j'avais dit que, en fait, déjà le pancha karma, c'est-à-dire On a dans l'univers, on a les cinq éléments. L'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. Ces cinq éléments, ils sont en nous. On est un microcosme de la terre, quoi, de l'univers. Et ces éléments, on les met par deux pour amener à ce qu'on appelle les doshas. Les doshas, ça correspond peut-être pas complètement, mais aux humeurs du Moyen-Âge. Donc, on a air et terre, si on met ensemble, ça va faire le vata, hein, la constitution vata. Vata, air et terre. Donc, c'est une personne qui est assez aérienne, hein, comme l'air, c'est assez sec, une peau sèche, c'est aussi très variable, c'est-à-dire très inconstant. Mmh. Hein. C'est des gens qui sont en général assez intelligents et qui sont quelquefois un peu trop dans leur tête. C'est le grand sensible de l'Ayurveda. Mmh. Voilà pour le Vata. Donc en fait, on dit que pour bien connaître les doshas, il faut au moins 7 ans. Donc là, vous voyez, je vous donne quelques éléments, quoi. Mmh. Vous pouvez trouver ça dans tous les bons livres d'Ayurveda. Hein, je vous donnerai des bons livres à la fin. Si mmh. Donc voilà pour Vata. Et Vata, c'est une constitution plutôt fraîche. Si vous êtes Vata, vous avez plutôt froid, vous êtes frileux, vous avez les pieds et les mains froides. Et de stature un peu mince. Mmh. Après, vous avez Pitta. Alors, Pitta, c'est le feu. Hein? C'est le feu et l'eau, mais c'est le feu qui est en premier. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours chaud. Mmh. Et c'est quelqu'un qui est toujours dans l'action. En général, là, pour Vata, c'est plus des artistes, et pour Pitta, c'est les chefs d'entreprise. C'est des gens qui ont beaucoup de volonté, qui sont beaucoup voilà, dans l'action, qui réalisent des projets, qui sont assez dynamiques aussi. Donc voilà, Pitta, mais qui sont beaucoup dans la compétition.
Tempérament voilà, de feu, quoi.
Bon, tempérament de feu, voilà, c'est tout à fait ça, Nathalie. Et puis après, on a Kappa. Kappa, c'est terre et eau. Alors, terre et eau, ça veut dire c'est des gens beaucoup plus ancrés. C'est des gens terriens. C'est des gens qui ont tendance à l'embonpoint parce que c'est plus solide la terre, quoi, en fait. Mmh. C'est donc, et c'est des gens plus calmes. Oui, c'est des gens plus calmes. Et voilà, donc voilà ce qu'on peut dire sur Kappa. C'est des gens qui sont très sociables en général, qui ont le côté eau, donc qui s'adaptent facilement. Donc voilà ce que je peux dire rapidement sur Vata, Pitta et Kappa. Et donc ça, c'est les trois doshas. Et après, on peut les associer. Il y a des... Alors ça, on l'a à l'origine, par nos parents, c'est génétique.
D'accord.
Et puis après, en fait, alors, on l'a à la naissance. Et ce qui est important, on a les trois doshas en nous. Et après, c'est une question de mesure et d'équilibre. Mmh. C'est-à-dire, quand on dit que quelqu'un est Vata, c'est-à-dire qu'il a plus d'air et d'éther. D'accord. Quelqu'un de Pitta, plus de feu. Quelqu'un de Kappa, plus de terre et eau.
Mais normalement, on a les trois doshas quand même.
On a enfin, les trois doshas à peu près. Ouais. Il y en a certains, par exemple, qui sont Vata, Pitta et Kappa tout petits.
D'accord.
Voilà. Alors, ce qui est embêtant, c'est que quand on change notre constitution d'origine, et par exemple, si on est Vata, Pitta à l'origine, on prend ça génétiquement de nos parents, donc nos parents vont être soit Vata et Pitta aussi, et puis, je ne sais pas, le Vata se dérègle, le Kappa monte, le Pitta descend et ça devient complètement déréglé. Mm-hmm. Et à ce moment-là, c'est là qu'arrive la maladie. D'accord. Ce qu'on cherche avec l'Ayurveda, c'est l'équilibre. Et ce qu'on a vu, donc Vata, Pitta, Kappa, et aussi ça peut aller par deux. Alors, on peut avoir Vata et Pitta, air et terre et feu. C'est des gens qui auront un peu de Vata et un peu de Pitta. Et ça va dépendre, et ça peut être quelqu'un qui est plus Vata. Donc, il aura quand même l'énergie du Pitta, la volonté du Pitta. Ça peut être quelqu'un qui est Vata et Kappa. Donc, ça va être quelqu'un d'aérien et en même temps, quelqu'un qui de très sensible et en même temps, quelqu'un d'ancré. Donc, c'est voilà, c'est une constitution. Il n'y a pas des constitutions mieux que les autres. Hein. Et les constitutions peuvent aussi fluctuer un petit peu avec l'environnement.
Et même dans la vie.
Dans la vie.
Ah, oui, on peut
modifier un petit peu, mais... C'est pas mal de garder quand même la base et de revenir à la base. Pitta Kappa, feu et terre. Alors, il y a beaucoup de maîtres spirituels qui sont Pitta et Kappa, les deux. Mm-hmm. Hein, Pitta, voilà, si Pitta est bien inspecté, s'il y a un bon mode de vie, comme j'avais dit quelquefois, eh bien Pitta, ça fait des gens très entreprenants, quoi. Mm-hmm. Et Kappa, ça fait assez rapide, le Pitta, hein. et kappa, ça va ralentir le pitta. Donc, ouais. Ça fait un bon équilibre. Et après, on peut avoir les trois doshas ensemble. Ah, Vata, pitta et kappa. C'est des gens qui, au début, j'ai rencontré... Il n'y en a pas beaucoup. J'en ai rencontré quelques-uns, voilà, qui viennent me voir pour des consultations. Et là, Vata, pitta, kappa, eh bien, c'est des gens qui ont les trois doshas et quelquefois qui changent d'humeur, qui sont assez... Par moments, ils vont être plus Vata, plus Kappa, plus Pitta, en fonction de l'environnement. Et quelquefois, ils ne savent pas trop comment situer ces gens-là. Ce n'est pas si évident, quoi.
C'est simple à gérer, en fait, même pour la nutrition, par la suite, puisque c'est associé quand même à...
Bien sûr.
À un mode de nutrition aussi, non ?
Oui, tout à fait. La nutrition, dans l'Ayurveda, comme la base, c'est les doshas, eh bien, ça va être chaque dosha... Alors, en même temps, dans l'Ayurveda, il y a beaucoup de bon sens. Et beaucoup... L'important, c'est d'être bien en lien avec soi-même. Et chaque personne est unique. Il n'y a pas de recette type. Quelquefois, vous allez aller chercher dans des livres d'Ayurveda et vous allez dire « Ah, mais ça, c'est mauvais. » Et peut-être que vous, vous avez une bonne digestion et que cet aliment-là, vous allez bien le... Mais il y a quand même des principes de base.
D'accord. Donc là, on pourrait peut-être parler de ces principes de base qui nous permettent de comprendre la nutrition par rapport au dosha ou par rapport aux constitutions.
Voilà. Alors, ce qu'on peut voir déjà, Vata, donc je vous ai dit, Vata, vous savez, air et terre, c'est en général des gens qui sont assez fluctuants, qui changent, et leur digestion va être la même chose, parce que j'ai dit au départ que la digestion en Ayurveda dans la nutrition, c'est l'essentiel.
D'accord.
Oui. Si on ne digère pas, c'est ça qui amène des blocages et ça peut amener des déséquilibres. Et la maladie, donc. Hein. Donc, un jour, par exemple, Vata, ça va être une personne qui va très bien digérer la pizza, par exemple, un jour, et le jour suivant, pas du tout. Hein. Donc, très variable. Et quand elle ne digère pas bien, c'est des gens qui vont être ballonnés, qui vont être constipés, qui vont avoir des gaz, qui vont être secs en général, une peau sèche, des cheveux secs. Alors, ce qui est important pour eux, c'est de faire... En général, ils ne s'occupent pas trop de la nourriture et ils ne mangent n'importe quand. Donc, pour eux, ce qui est important, c'est de manger à des heures précises.
De structurer les repas.
Voilà. Parce qu'en fait, Vata, le mot est très juste, Nathalie, c'est des gens qui ne sont pas trop structurés et qui ont du mal à se structurer. Voilà. C'est un peu des artistes. Et en fait, pour la nourriture, pour eux, c'est très bien quand ils... ils se structurent, quoi. Et ils ont des heures un peu fixes. Comme Vata, quand il voyage, en général, le Vata augmente. Donc, c'est important qu'il reprenne ses repères. Donc, c'est ce qu'on peut dire sur Vata et souvent des problèmes de digestion. Alors, quand on voit Pitta. Pitta, c'est le feu. Alors, c'est vrai qu'en général, Pitta a une bonne digestion. Surtout quand Pitta est jeune. Hein? Donc, il a le sang chaud, un bon métabolisme, etc., les pieds chauds, une circulation sanguine puissante. Bon, alors, circulation sanguine puissante, ça peut amener aussi des problèmes cardiaques.
Oui. Ben, hein?
Alors,
quand c'est en déséquilibre.
Voilà, quand c'est en déséquilibre. Alors, ce qu'il y a, c'est que jusqu'à l'âge de 40 ans, en général, ça va. Ils ne se rendent compte pas à grand-chose, mais après, brûlure, d'aigreur d'estomac... Si son processus digestif va ralentir un petit peu et il peut y avoir des kilos en plus, il peut y avoir des brûlures d'estomac. Et à ce moment-là, la personne de constitution pitta doit faire de plus en plus attention aux aliments et à la qualité des aliments qu'il prenne. Par exemple, attention à l'acidité, attention aux tomates, etc. Tandis que Kappa a un métabolisme beaucoup plus lent. Plus constant. La capacité digestive de Kappa est très régulière, très stable. Mais elles peuvent facilement être congestionnées et en surpoids. Parce que leur fonction métabolique, justement, marche lentement. Et prennent beaucoup de temps à transformer ce qu'elles mangent. Donc, en fait, ce qui est important pour Kappa, c'est de prendre vraiment beaucoup de temps. En train de bien digérer
entre chaque repas vraiment les
autrement séparer, ça voilà parce que autrement ils stockent quoi en fait hein. Ce qui est important aussi Kappa aussi peut stocker accumulation de mucus et de graisse Et donc, amener tous les problèmes de bronchite, de rhume. Et ça, toujours quand vous avez un rhume, quand vous avez une bronchite, quand vous avez des problèmes comme ça, c'est toujours une accumulation de kappa.
D'accord.
Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça.
Donc, ils ont des fragilités, certains, sur certains organes.
Voilà. On a, oui, tout à fait. Par exemple, Pitta peut avoir des problèmes hépatiques, peut avoir des problèmes d'yeux, problèmes de peau. Voilà, ça, Pitta, c'est sûr. Kappa, comme je vous l'ai dit, c'est tout ce qui est bronchite, tout ce qui est mucus. Hein. Bon, par exemple, le lait peut être bon pour Pitta. Le lait avec des... Surtout si vous mettez un peu d'épices. Le lait va être très bon pour Pitta, mais le lait pour Kappa est vraiment très dangereux. Donc voilà, Vata, c'est... De toute façon, tout ce qui est les problèmes, tout ce qui est sucre, tout ce qui est goût sucré, pour Kappa, c'est dangereux. C'est vraiment à éviter.
Et donc, en parlant de ces goûts, donc par rapport à ce que selon manger, ces différentes constitutions, je crois que les goûts c'est très important dans l'Ayurveda, il y a plusieurs goûts différents, c'est ça?
Voilà, c'est tout à fait
qui correspondent à certains aliments.
Voilà, exactement. Alors en Ayurveda, et ça c'est essentiel, bon j'espère que vous avez bien compris tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est clair, parce que c'est vrai que je donne pas mal d'informations, ce que j'espère c'est que ça va vous permettre aussi d'aller voir dans d'autres livres, quoi, en fait, et d'aborder justement ces sujets-là plus facilement. Alors, les goûts, donc il y a 6 goûts. Il y a 6 goûts, donc, et ça c'est essentiel. Donc, le premier goût, c'est le goût, alors, vous savez, c'est sweet en anglais, et vous savez que. En sanskrit, un mot a toujours plusieurs significations. Donc, c'est le goût, vous allez le voir dans les livres comme le goût doux ou le goût sucré. Ou, voilà, goût doux, goût sucré ou goût neutre aussi. Alors, ce goût sucré, dans chaque goût, il y a des éléments naturels. Donc, dans le goût sucré, c'est la terre et l'eau.
D'accord, ouais, donc ça correspond.
Voilà, alors ce que ça correspond, alors... En général, c'est tout ce qui correspond au sucre, à la graisse, aux aminoacides, aux carbohydrates. Alors, c'est la plupart des grains, la plupart des fruits, hein, la plupart des racines. Donc, il faut savoir ce que ce goût a des avantages, c'est-à-dire que ce goût sucré améliore tous les tissus du corps, le nourrit et enlève la faim.
Ah oui, donc oui.
Voilà. Voilà, amène le... la sensation de satiété, mais le problème c'est que le goût sucré, alors par exemple pour Kappa, c'est pas bon parce que le goût sucré va vous amener un petit peu à grossir, quoi, en fait. Hein.
Oui, donc c'est pas adapté
au Kappa. Au Kappa, oui. Mais en revanche, pour Pitta et Vata, et ça se comprend parce que terre et eau, Kappa et terre et eau, donc on va pas rajouter encore terre et eau à Kappa. Okay. En revanche, pour Pitta qui est feu, hein, feu et eau. Là, c'est bien. Vata, air et terre, c'est très bien aussi. Et même terre et eau, c'est meilleur encore pour Vata que pour Pitta.
Donc, ça va rééquilibrer un dosha, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Et pour rééquilibrer un dosha, en fait, il faut augmenter l'autre.
D'accord.
Donc, si on augmente, on a dit que goût sucré avec terre et eau augmente Kappa, à ce moment-là, Pitta et Vata vont être plus équilibrés. Et c'est bon pour Pitta-Vata. Donc ça, c'est le goût sucré. Mmh. Hein. Et là, vous pourrez aller voir tous les aliments. Ce n'est pas seulement le sucre. Hein. C'est par exemple dans le riz. Hein,
D'accord.
C'est la saveur douce, quoi, en fait. Hein. Après, vous avez le deuxième goût. C'est le goût acide. Alors, le goût acide, c'est terre plus feu. Alors, terre plus feu, il y a les éléments dans le goût acide, terre plus feu, alors. Si vous réfléchissez un petit peu, vous savez que Kappa, c'est terre et eau. Donc, obligatoirement, ça va augmenter Kappa.
Oui.
Obligatoirement, ça va augmenter Pitta, qui est feu et eau. Donc, les aliments acides ne sont pas bons ni pour Kappa ni pour Pitta.
D'accord. Ouais.
Mais ils sont bons pour Vata. Ils diminuent Vata. Alors, c'est le meilleur. Hein. L'acide, les aliments acides sont les meilleurs pour Vata. Donc, les aliments acides aident à la digestion, à éliminer les déchets du corps. Mmh. Alors, quels sont les aliments acides? C'est tous les acides organiques, comme les citrons, les raisins, les fraises, avec un tout petit peu de sucre. Tous les agrumes, en fait. Hein. Le miso, le soja, les yaourts, voilà. Tout ça correspond au goût acide.
Goût acide, d'accord.
Ça, c'est le deuxième goût. Donc maintenant, le goût piquant.
Ça, c'est donc le troisième goût.
Voilà, le troisième goût. Donc, c'est air plus feu. Mm-hmm. Donc, si on prend air plus feu, donc tout de suite, on va dire que ça va augmenter pitta, mm-hmm. le feu, et ça va augmenter vata, d'accord. l'air. Mm-hmm. Mais en revanche, le piquant, c'est bon pour kapha. Les gens qui veulent, par exemple, mincir, c'est bien qu'ils prennent du piquant.
Ah oui.
C'est très bon pour kapha.
Oui, d'où les piments dans certains.
Voilà, exactement, régimes, certaines etc. épices. Oui. Voilà. Donc ce goût, il maintient le métabolisme et équilibre les sécrétions dans le corps. Mm-hmm. Alors, toutes les épices telles que l'ail, le gingembre, la sofétida, le poivre, les huiles sont considérées comme piquantes. Mm-hmm. Et vous pouvez trouver d'autres choses.
Mais les huiles sont considérées comme piquantes.
Certaines huiles sont considérées comme piquantes. Oui. Ça, c'est pas toutes, quoi.
Oui, oui, d'accord.
Après, vous avez le goût salé.
D'accord.
Donc, ça, c'est le quatrième goût. Hein. Donc, je reprends. On a eu le goût doux, le goût acide, le goût piquant et maintenant le goût salé. Alors, le goût salé, vous pouvez penser à la mer. Qu'est-ce qu'il y a dans la mer? C'est salé.
Oui.
Il y a de l'eau. Mmh. Et feu, parce que ça brûle, ça, c'est piquant, quoi, en fait. Hein.
D'accord.
Ah ouais. Donc, eau et feu. Alors, s'il y a eau et feu, eau, ça va augmenter kappa.
Forcément.
Et pitta, feu, ça va... Eau et feu, ça augmente pitta. Très fort, parce que pitta a les deux éléments, eau et feu.
Oui.
Donc, le sel augmente pitta et kappa. Tous les éléments salés augmentent pitta et kappa. Mmh. Hein? Donc, par exemple, le sel, c'est mauvais pour tous les problèmes cardiaques.
Oui, évidemment. Oui.
Hein? Et on sait que kappa...
A tendance.
Voilà, c'est ça.
Non, bah oui, voilà. Donc,
pitta aussi, donc...
On retrouve...
Voilà, on peut retrouver des liens, quoi. Et vata, en revanche, ça abaisse vata, le dosha vata. Donc, le sel est très bon pour vata. Ce goût nettoie tous les tissus du corps et active la digestion. Ça, c'est important, hein, ça active la digestion. Donc, c'est bien d'en prendre un petit peu pour activer la digestion. Il existe dans tous les légumes aqueux, comme le concombre, par exemple.
Oui, d'accord.
Les tomates, etc.
Mmh.
Ça va? Donc, maintenant, cinquième élément. Donc, cinquième goût, c'est l'amer. Hein, l'amer, alors, dans le goût amer, il y a air et éther. Donc, air et éther, bien sûr, ça va augmenter vata. Donc, tous les éléments amers augmentent vata. Mais en revanche, ils vont diminuer pitta et kappa.
D'accord.
Donc, ce goût est bon pour tous, mais à petite quantité. Hein? Il existe, alors c'est excellent pour vata. Il existe dans les aliments amers, comme par exemple le turmeric, l'aloe vera, les endives, les laitues.
Oui.
Là où il y a un peu d'amertume, quoi, en fait.
Oui, hein? Oui.
Donc, ça, n'oubliez pas, c'est bon pour vata. Après, le sixième goût, c'est l'astringent. Oui, c'est bon. Ça, amer, c'est bon pour vata.
D'accord.
Et maintenant, l'astringent, le goût astringent. Alors, le goût astringent, c'est air plus terre. Alors, air plus terre, ça va augmenter vata. Et ça va descendre pitta. Et ça va être OK pour kappa. Oui, il y a quand même de la terre, donc pas trop, mais ça va. Alors, ce goût, il réduit toutes les sécrétions. C'est pour ça qu'il est bon pour kappa, même s'il y a la terre.
Ça désengorge, en fait.
Voilà, ça désengorge. Ça. Exactement, c'est ça, Nathalie. Donc, l'été, tout l'été sont astringents. Et la plupart des médicaments aussi sont astringents par nature.
D'accord.
Donc voilà. Donc voilà pour les goûts et pour les goûts en fonction des doshas.
D'accord. Donc, quelle autre particularité est propre à l'Ayurveda au niveau nutritionnel qu'on peut découvrir?
Alors, ce qui est très important pour l'Ayurveda, c'est ce qu'on appelle les gunas. Mmh. Alors, les gunas, en fait, c'est une classification des sources nutritives et c'est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. Alors, il y a des éléments qui sont dits sattviques. Hein? Sattva, alors ce sont tous les aliments qui amènent la vitalité.
Il y a plusieurs types de gunas ou...
Il y en a trois.
Trois, oui. D'accord.
Alors, il y en a trois, donc ça va être... Alors, je vais les reprendre chacun après. Donc, il y a les aliments sattviques, les aliments rajasiques et les aliments tamasiques. Alors, il y a des aliments qui amènent la vitalité.
D'accord.
D'autres qui amènent de l'énergie, d'autres qui amènent de la structure, mais qui n'amènent pas l'énergie, la vitalité.
Donc là aussi, ça va compenser aussi tous ces doshas.
Voilà, ah. Et tout ça, ça travaille avec les doshas, effectivement.
D'accord.
Ça joue sur les doshas. Alors, si on prend les aliments sattviques. Donc les aliments sattviques... C'est les aliments qui amènent la vitalité.
Mmh.
Alors, les aliments qui amènent la vitalité, ce sont tous les produits frais. Les fruits frais, secs, les graines germées, les légumes. Tous les aliments qui sont chargés de lumière, de légèreté, de fluidité, de pureté. Ils apportent donc à l'organisme ces mêmes qualités. La force, la joie, la conscience, le calme. Donc, ce sont les aliments à privilégier.
Mmh.
Ouais. Après, vous avez les aliments rajasique. Rajas, c'est l'énergie. Donc, ce sont des aliments qui vont vous donner de l'impulsion, quoi. De l'énergie.
Du pita, quoi.
Un peu de pita, oui.
Du feu.
Donc, ce sont les laitages, les céréales, les légumineuses, les sucres et les graisses. Les laitages, parce que ça nourrit. Hein, ça nourrit en même temps. Ça donne de l'énergie parce que ça nourrit. Hein. Les sucres, les graisses, il donne énergie, puissance, résistance, rapidité, mouvement. Donc voilà, donc les rajasiques. Et puis après, vous avez les tamasiques. Alors les tamasiques, ce sont les aliments qui sont plus lourds, qui sont dépourvus de vitalité, qui conduisent peut-être plus à la paresse, à l'immobilité. En revanche, ils sont importants pour la structure et la stabilité.
Pour l'ancrage.
Voilà, pour l'ancrage. Alors ce sont les sucres raffinés, certaines viandes riches, les aliments qui manquent de fraîcheur ou qui ont été cuisinés trop violemment.
Voilà, oui. Une destruction de...
Voilà. Et c'est vrai, le tamasique en général, c'est quand même pas... Alors là, ils disent que ça amène la structure, mais en général, c'est vraiment les aliments qui abaissent un peu notre énergie.
Bon, hein.
Si on parle au niveau énergie...
À l'opposé de l'autre qui est...
Voilà, sattvique, ça élève notre énergie. Rajasique, ça nous donne de l'énergie, justement. Et tamasique, ça nous abaisse. Alors, ce qui est important aussi, ce que je n'ai pas dit peut-être, c'est ces aliments et ces gunas sont très importants. Mais ce qui est très important aussi, c'est comment on prépare les aliments. C'est-à-dire dans quel état d'esprit. Et avec quel matériel? Le matériel est aussi important.
Mmh.
Et puis j'ai dit donc en silence, mais la préparation des aliments, c'est aussi important que ce qu'on va manger. Et puis après, donc pas d'émotion, comme je vous l'ai dit. Et puis ce qui est important aussi, donc dans quel état d'esprit on mange, on prépare aussi le repas quelquefois. On peut faire, alors dans la religion catholique on faisait des prières, mais dans l'hindouiste on peut chanter des mantras, on offre notre nourriture, et puis après manger tranquillement, en silence, et toujours dans un bon état d'esprit. Mais ce qui est important aussi, c'est la préparation de la nourriture est essentielle et qu'on le fasse aussi avec amour, avec cœur. Tout ça est essentiel. Donc voilà, alors est-ce que vous avez d'autres questions ?
au niveau des boissons, qu'est-ce qui vient? Parce qu'on entend parler du lassi, par exemple.
Voilà.
Sinon, il...
Ah oui, alors qu'est-ce le lassi, c'est pas très bon. Parce que dans l'Ayurveda, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant. C'est on ne peut pas associer n'importe quel aliment.
Oh, d'accord.
Donc, si vous mettez, par exemple, du lait et des fruits, pourquoi c'est toujours le problème de la digestion? Si on associe certains aliments, eh bien, ça va être difficile à digérer. Alors, ce qui est important, c'est surtout de ne pas boire pendant le repas. Bien sûr, de ne pas prendre les sodas, tout ce qui est fabriqué, voilà. Ouais. Mais ce qui est bon, c'est bon, l'eau. Alors, le lait, il est lourd à digérer. Ce qui est important, c'est de mettre des épices. Hein, de mettre des épices pour...
Dans le lait, donc.
Voilà, le chai. C'est le chai pour qu'il soit plus facilement...
Donc le chai, c'est que du lait ou du lait aux épices ou il y a autre chose?
Alors dans le chai, en fait, c'est du thé avec un peu de lait et des épices. Et
voilà. Ça permet de mettre du lait puisqu'il y a des épices qui vont permettre de digérer le lait, c'est ça?
Voilà, exactement. Alors je voulais revenir sur la combinaison des aliments. C'est-à-dire qu'il y a des aliments à ne pas mélanger avec d'autres. Mm-hmm. Par exemple, les liquides glacés. Il ne faut pas les mélanger avec les autres aliments. De toute façon, en Ayurveda, il ne faut pas mélanger le chaud et le froid. Soit on mange froid, soit on mange chaud. Pour la digestion, c'est mieux de manger chaud. C'est plus facile de digérer quand on mange chaud.
Quand on dit froid, ça serait cru.
Voilà.
Ou alors c'est cuit et froid.
Non, c'est cru et cuit.
D'accord.
Il ne faut pas mélanger cru et cuit.
D'accord.
Le cru, c'est vrai que ça amène beaucoup de vitamines. L'Ayurveda n'est pas contre ça. Mais il est beaucoup plus difficilement digérable.
Oui.
Et donc, par exemple, pour des vata, par exemple, des constituants vata, on va conseiller de prendre plutôt du chaud. Et par exemple, les gens qui mangent des salades l'été, c'est bien, mais il faut qu'ils puissent digérer les salades.
Chaud et cuit, donc plutôt pour le vata, c'est ça?
Voilà, chaud et cuit pour le vata. Donc, je reviens aux combinaisons d'aliments. Donc, ne pas mélanger, par exemple, le liquide glacé avec tous les autres aliments. Ne pas mélanger des œufs avec la viande rouge, le poisson, le lait, le fromage. Ne pas mélanger les fruits avec tous les autres aliments. Alors, c'est vrai aussi que les fruits, il y a un ordre aussi pour l'Ayurveda. C'est-à-dire, commencer le repas, on commence à tout l'inverse en Occident. Ça serait mieux de commencer par le goût doux.
D'accord.
Et donc, les fruits, surtout pas les manger en fin de repas, parce que c'est très difficile, ils amènent... des acides qui font que c'est très difficile à digérer après. Donc les fruits, soit en début de repas, soit
en dehors.
En dehors,
ouais, oui,
carrément en dehors. Donc les fruits, il faut les mélanger avec aucun autre pain. Donc le miel, c'est mauvais de le mélanger avec le ghee. Alors le ghee, c'est le beurre clarifié. Si j'ai le temps, je vous reparlerai du ghee à la fin. Ne mélangez pas la viande, le poisson, produits laitiers avec des liquides chauds. Avec des sauces chaudes.
D'accord.
Très difficile pour des... Toujours, c'est le problème de la digestion. Ne pas mélanger yaourt, lait, concombre, tomate avec du citron.
Ah tiens.
Avec de l'acide, quoi, en fait. Ça augmente d'acide.
Ah oui, d'accord.
Melon avec tous les autres aliments. Le lait, ne pas mélanger avec du poisson, des œufs, pain à la levure, viande rouge. Pommes de terre, tomates, aubergines, ne pas mélanger avec le lait et le yaourt. De toute façon, le lait et le yaourt, il ne faut pas le mélanger avec les autres aliments et il faut le mettre avec des épices. Et
d'accord.
En Inde, l'alimentation aussi, les épices sont très, 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 très importantes. Et chaque épice a une propriété. C'est-à-dire qu'il y a des épices qui vont vous aider à mieux digérer. Par exemple, si vous prenez du gingembre.
Oui.
Eh bien, si vous avez vraiment des problèmes de digestion, eh bien, avant de commencer le repas, prenez un peu de gingembre avec du citron.
D'accord.
Et ça va vous aider à... Et du citron vert pour éviter une trop grosse acidité, quoi, en fait. Hein.
Parce qu'ils n'ont pas la même acidité, citron vert et citron jaune.
Voilà, c'est ça. Alors, pour revenir aux épices... Alors, les épices. Alors, le gingembre, bien sûr, c'est très bien. L'assafoetida aussi, c'est très bien.
L'assafoetida, ça représente quoi exactement?
C'est une épice de l'Inde.
Assafoetida, oui.
Hein, tu vois, alors comment décrire assafoetida? Je ne sais pas trop, mais c'est... Oui, c'est une plante, quoi. Mmh. Hein? Alors, autrement. Alors, autrement, ce qui
le
est...
Le poivre, par exemple.
Le poivre, pas trop...
Pas trop, hein.
Pas trop mettre du sel, du poivre.
Ils sont plus curry, non?
Voilà, du curry.
Mais pas que... Sous quelle forme, le curry? Parce que je crois qu'il y a plusieurs formes de curry dans la
cuisine. Oui, alors, en général, eux, ils préfèrent mettre... Alors, toujours naturel, voilà. Et ils préfèrent tout de suite, quand on commence, faire chauffer les épices. Pas trop, c'est tout un art, pas trop, mais faire chauffer immédiatement, immédiatement.
Au départ, quoi. Avant de rajouter tous les légumes.
Exactement, avant de rajouter tous les légumes. Donc, voilà, donc ce qui est important, c'est au moins, prenez l'habitude de mettre du curcuma. Le curcuma aussi aide beaucoup.
Le curcuma, la coriandre, qu'est-ce qui est
assafoetida. Voilà, attendez, je voulais retrouver autrement les épices qui peuvent être importantes encore. Ouais, je crois qu'on a cité les épices essentielles là.
Le curry, gingembre, assafoetida.
Voilà, et puis en fonction des doshas, il ne faut pas exagérer. De toute façon, je pense que comme pour les aliments, il faut être toujours... dans quelque chose de d'équilibré en
j'ai
fait
hein. Aussi pour le piment de... lorsque j'étais en Inde, c'est qu'il mettait des gousses de piment entières,
oui,
sans les ouvrir,
oui,
afin que les gens qui supportent pas le piment puissent les mettre
voilà
un petit peu de côté et les autres en profiter
exactement
en fonction
exactement.
De leur dosha.
Voilà, exactement. Donc voilà ce qu'on peut dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors est-ce qu'il y a en fait, est-ce qu'il n'y a pas de carence dans ce type de régime?
Alors,
on parle par exemple de certains régimes où on manque de vitamine B12, d'autres où on manque de...
Oui.
Donc en Ayurveda...
Alors, ce qui est dit en Ayurveda, ce qu'il faut, c'est manger varié, essayer de varier. Alors, manger des fruits, manger des légumes, manger des légumineuses... Et ne pas prendre toujours les mêmes aliments, les mêmes... Voilà, essayez de varier en fonction des saisons, en fonction d'où vous êtes, et essayez d'amener des recettes différentes, avec des couleurs différentes, avec des aliments différents. Et à ce moment-là, de toute façon, l'Ayurveda accepte tous les aliments, même on peut manger de la viande ou du poisson. Mais ce qu'il y a après, c'est certains Indiens vont être végétariens ou même végétaliens par philosophie plus. C'est-à-dire qu'ils vont dire, le médecin ayurvédique avec lequel j'étais disait, quand on tue un animal, on amène du stress dans l'animal. Donc en fait, quand vous prenez, vous mangez cet animal, vous incorporez l'énergie du stress, l'énergie de la souffrance. Et aussi par respect de la vie, quoi. Pourquoi manger les animaux? Après, et quel animal manger? On mange pas le chien, dans certains pays on va manger le chien, pourquoi? En fait, après c'est le respect de l'être vivant. Mais l'Ayurveda ne dit pas de pas manger de viande ou pas manger de poisson, et pour des gens très très faibles, quelquefois ils vont préconiser de manger un peu de viande, quoi, En fait, l'Ayurveda, il y a un côté très très ouvert, très beaucoup de bon sens, beaucoup de... Voilà, et chacun, en fonction de sa constitution qui est vraiment unique, va voir s'il est... En fait, l'Ayurveda, c'est une... La nourriture ayurvédique va vous rendre responsable.
D'accord.
Et c'est à vous de savoir et de sentir ce qui est bon pour vous ou pas. Et alors, bien sûr, vous direz, moi j'aime bien le sucre, par compensation. Mais il faut bien sûr prendre un peu de recul et de sentir que vous faites une compensation et que ce n'est pas bon pour vous, en fait. Mmh. Ce qui est bon pour vous, pour que vous sentiez en meilleure santé, bien dans votre corps,
équilibré,
etc., équilibré, quoi. Mais souvent, il y a des gens qui viennent chez moi qui me disent « Oh, j'aime pas cet aliment. » Et puis, on regarde ensemble, on regarde la constitution et on se rend compte que c'est très mauvais pour la constitution. Il dit par exemple « Oh, moi, je peux pas manger de lait, tout ça. » Et je me rends compte que c'est une personne qui est capable. Donc, je comprends que si elle prend du lait, elle va toujours tout de suite avoir un rhume. C'est vrai, ça. Il y a des gens, ils prennent une glace, par exemple, un peu de lait et tout de suite, ils ont un rhume.
Donc, il y a des personnes qui disent par exemple qu'ils n'ont pas très faim au petit déjeuner et qu'ils n'ont pas de besoin de se nourrir. Est-ce que ça correspond à une dosha particulière?
Alors, plutôt qu'une dosha, ça correspond plutôt. Il y a des gens, c'est vrai, qui n'ont pas faim le matin, peut-être parce qu'ils ont bien mangé la veille, parce que, bon, ils n'ont pas faim. Alors, ce qu'on dit en Ayurveda, surtout ne pas manger, même si c'est le petit déjeuner. Et est-ce que ça correspond à un dosha? Alors, Vata, c'est vrai, quelquefois, il n'a pas trop faim. C'est celui qui a le moins faim. Pitta, il a plus faim, lui. Kapha, il a toujours faim. Donc, peut-être, celui-là va plus avoir envie de manger. D'accord. Mais, quelquefois, bon, peut-être aussi, si le repas du soir n'est pas encore bien digéré, peut-être que la personne n'a... Il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai vu des gens Vata, beaucoup, des gens Pitta, beaucoup, qui n'avaient pas envie de prendre leur petit déjeuner. Et même si on dit que le petit déjeuner, c'est essentiel, mais après, on fait un bon repas. Quand j'étais dans l'ashram en Inde, eh bien, le matin, on mangeait vers 10h30. Hein, Nathalie était avec moi, d'ailleurs, l'ashram.
C'était composé de deux vrais repas. En fait, voilà. Et on laissait tout le temps pour la digestion dans la journée.
Voilà. On faisait... Ce qui est très mauvais, c'est le grignotage. Alors, bien sûr, on dit ça fait grossir, mais c'est pas mauvais que parce que ça fait grossir. C'est très mauvais parce que ça amène du surpoids. Et ça aussi... Ça empêche de digérer et d'intégrer. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a de plus en plus d'obèses, que ce soit aux États-Unis, même en Europe. Et l'obésité amène plein de maladies, amène les problèmes cardiaques, les problèmes circulatoires, etc. Quoi, hein.
Articulaires.
Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est de fortifier le feu digestif pour bien digérer et prendre un certain laps de temps. Alors, je vous disais tout à l'heure de prendre du gingembre frais, du citron vert, et vous pouvez saupoudrer aussi de sel de roche, et de manger cela, ce mélange, avant le repas, pour augmenter l'appétit et la capacité de digestion.
Ah oui, d'accord.
Parce que si on mange, si on n'a pas faim, c'est très très mauvais pour l'Ayurveda. Il faut manger quand on a faim. Autrement, c'est pas la peine de manger, quoi. L'alcool, en petite dose, puisque l'alcool, par exemple, pour Pitta, l'alcool est très mauvais. Tout ce qui est épice et alcool pour Pitta, trop, c'est très très mauvais.
Et Kapha aussi, je suppose, parce que...
Bien sûr, Kapha, ça va être un excès de poids après. Pitta, ça va être plus l'excitation.
Et les Vata, si j'ai bien compris, ils ont plus de mal à grossir, ils sont plus filiformes.
Surtout quand ils sont jeunes, quand ils dépassent 40 ans, après, ils ont une bouée autour de l'estomac.
Oui, donc ça.
Et le Kapha, qui est très anxieux, s'il mange pour compenser, à ce moment-là, il peut grossir.
Bah oui,
c'est clair. S'il mange par compensation. Donc, voilà. Est-ce que... Alors, bien sûr, là, je parle en une heure. Alors, je vous avais dit aussi, alors, à moins qu'il y ait d'autres questions... C'est vrai que la nourriture, on pourrait en parler pendant des jours entiers, quoi. Il y a des livres entiers écrits sur la nourriture. La nourriture est la base, comme c'est la prévention. Et quand j'étais avec le médecin ayurvédique, il m'a soignée par la nourriture.
Oui, c'est en fait, c'est vrai.
C'est un médicament. Et en fait, beaucoup de médecins ayurvédiques ne donnent pas de médicaments. Ils essayent avant tout par la nourriture et par le style de vie. Il va vous dire de respirer, il va vous dire de faire du yoga, parce que le yoga et l'ayurveda sont liés.
Oui.
Donc il va vous dire de chanter, il va vous dire... la responsabilité de la personne elle se dit pas « Oh, j'ai une maladie, j'ai pas de chance », la personne elle se dit « Ah oui, alors bien sûr, il y a les maladies karmiques. C'est les maladies qui viennent... de nos ancêtres, qui viennent, même si après on croit aux vies antérieures, qui viennent de nos vies antérieures. Mais il y a les maladies aussi que nous-mêmes, on s'est générées, quoi. Par le stress, par un mauvais mode de vie, par une mauvaise alimentation, par exemple la cigarette, des mauvaises habitudes et trop d'habitudes qui ne sont pas bonnes, quoi, en fait. Et après, il y a des déséquilibres, et les déséquilibres, quelquefois... Et c'est trop tard, après ça amène la maladie. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'équilibrer et de prendre ça à la base.
Hein. Ouais. Donc, quand on réfléchit, c'est quand même une science qui est bien, bien réfléchie, qui est bien prouvée. Et malheureusement, la médecine traditionnelle occidentale n'en tient pas compte de la même manière.
Alors,
c'est beaucoup plus...
Oui, c'est vrai. Alors, Nathalie, c'est vrai qu'en Europe, en France, eh bien, on ne veut pas parler de la médecine ayurvédique. Mais par exemple, en Inde, la médecine allopathique et la médecine ayurvédique se complètent très bien. Elles ne sont pas opposées. Au contraire, les uns et les autres s'aident, quoi, en fait. Mais c'est dommage... Voilà, que cette médecine ne soit pas reconnue, parce qu'elle est reconnue dans plein de pays, pas seulement en Inde, au Sri Lanka, en Angleterre, il y a même une université de la médecine ayurvédique. On peut étudier la médecine ayurvédique.
Ah oui. En Indonésie, tout ça aussi. Je pense
oui, en Asie, ils sont très ouverts à ça. Mmh. Ensuite, ils sont beaucoup plus ouverts que nous. Voilà, il y a des cliniques ayurvédiques que nous... Non, c'est pas possible, quoi. Pour l'instant, peut-être que ça va...
Pas d'ouverture encore, bon.
Voilà, mais peut-être que ça... Voilà. Mais, alors, certains disent que l'Ayurveda, c'est pas du tout une secte. L'Ayurveda, c'est une philosophie de vie, c'est un choix. Et après, alors, bon, bien sûr, il y a des médecins ayurvédiques, mais des médecins ayurvédiques, il y en a qui ont fait l'université. Ce sont vraiment... Moi, là, cet été, je vais 3 semaines dans une clinique ayurvédique où ce sont que des médecins ayurvédiques sortis de l'université. Donc, ce sont des scientifiques, on fait 10 ans, 15 ans d'études, quoi.
Ah oui, en fait, ils étudient toutes leurs plantes aussi.
Voilà.
Qui sont même inconnues dans nos pays.
Exactement. En fait, exactement.
Un panel de plantes.
Impressionnant. Oui. Et souvent, même en Inde, quelquefois, il y a des gens qui vont vers l'allopathie, ce qui est reconnu comme la médecine anglaise. C'est les Anglais qui ont importé l'allopathie en Inde. Et puis, quelquefois, il y a l'allopathie a ses limites, comme l'Ayurveda a ses limites, et ils viennent vers l'Ayurveda. Ce qui est intéressant dans l'Ayurveda, c'est que l'Ayurveda prend la personne globalement. Elle ne soigne pas la maladie, elle soigne la cause, et elle regarde à la fois l'âme, à la fois la psychologie, à la fois toute la personne.
Oui, d'ailleurs, un médecin ayurvédique prend le pouls, on l'appelle le pouls. Donc,
voilà.
Quand il prend le pouls, c'est pas du tout le même pouls qu'en Occident.
Ah non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, avec le pouls, il va sentir aussi votre état psychologique. Il va pas sentir simplement votre cœur, il va sentir vos organes, il va sentir vos états psychologiques. C'est un tout, quoi. C'est autant le mental,
les émotions.
Ouais. C'est vraiment un tout. Et c'est là la richesse de l'Ayurveda. Ah, et l'Ayurveda, en fait, ne travaille pas par rapport aux vitamines, par rapport... c'est beaucoup plus global, quoi. C'est moins restrictif, un petit peu, que l'allopathie, même si l'allopathie a de bonnes choses.
Bon, bien sûr.
Les médecins ayurvédiques reconnaissent, ils travaillent de concert, quoi.
Très bien.
Bon, est-ce que j'ai encore...
Oui, vas-y. Tu nous parlais un petit peu du ghee, parce que je pense qu'il utilise quand même pas mal pour... En fait, comme huile pour cuisiner, si je me souviens bien, il utilisait beaucoup de ghee ou d'huile...
Alors, oui, alors l'huile, on peut... d'olive, des huiles à haute pression. Et ça, c'est très, très, très important.
Pression à froid aussi.
Voilà, pression à froid, ça, c'est très important. Des huiles de bonne qualité. Alors, autrement, pour... ça y est, je ne l'ai pas. Pour le ghee. Alors, le ghee, c'est... Alors, le ghee, en fait, c'est du beurre que l'on fait chauffer et qu'on clarifie. Et ce ghee, en fait, il est très bon pour, en fait, tout ce qui est la constitution de la personne. Hein, le ghee aide à la constitution de la personne, mais le ghee, c'est tout un art de faire du ghee, dans le sens où il ne faut pas trop chauffer, il faut faire chauffer le beurre, mais pas trop, il faut attendre qu'il boue. Après, il faut enlever tout ce qui est au-dessus du beurre. Et voilà, donc c'est tout un art.
Dans les épices, il y avait aussi...
Voilà, c'est tout un art hein, de
faire... C'est du beurre clarifié, en fait.
Oui, c'est de beurre clarifié. Alors oui, par rapport... alors voilà, on a encore un petit peu de temps.
En quelques minutes, oui, on peut peut-être encore parler de... Je ne sais pas s'il y a d'autres...
Ce que j'aurais voulu, c'est donner des titres aussi. Voilà. Pour les épices, c'est vrai, j'ai oublié peut-être l'asofoetida. Donc, c'est une gomme résineuse, hein, extraite d'un arbre originaire d'Asie, la cardamome, une graine, le curcuma, hein, qui est très, très bon aussi pour digestif, excellent pour le foie, la cannelle. Hein, qui pousse en Inde à Madagascar, le coriandre, la coriandre. C'est une herbe aussi aromatique et médicinale qui est utilisée au quotidien en Inde. Hein. Le cumin, bien sûr, le fenugrec, hein, qui ont un goût amer, laxatif, tonique, qui combat l'anémie et le diabète. Le gingembre, il combat les rhumes, les angines. Mais il a une nature réchauffante, donc il faut faire attention, il stimule pitta, et le gingembre, bien sûr, il entre dans la composition du chai dont j'ai parlé. Donc, le clou de girofle aussi, c'est très bien. Le feuille de curry. Et là, le feuille de curry facilite la sécrétion des sucs gastriques. Les graines de moutarde, hein, elles combattent les rhumatismes, la fièvre. Le thym indien, hein, il est excellent pour le système digestif. Voilà. Alors, pour terminer, alors, je voudrais... Oui, je peux vous donner... C'est vrai, la recette du chai, qui est le thé aux épices, cuit avec du lait et du sucre, une boisson courante en Inde, et les épices rendent le lait très digeste. Cette boisson, bien sûr, est nourrissante, équilibrante, énergisante et réchauffante. Alors, il faut faire attention, si on est trop sensible à la théine, évitez bien sûr à boire trop le soir. Et il en existe plusieurs variantes, avec de l'amande fraîche, du poivre. Voilà, alors en fait pour faire un bon chai, il faut mettre du girofle, de la cannelle, de la cardamome, du gingembre, 3 à 4 cuillères de sucre, du lait entier et du thé de Ceylan. Donc voilà.
D'accord.
Autrement, je voulais aussi vous parler de certains auteurs qui sont vraiment très intéressants en Ayurveda, qui sont des références, comme le docteur David Frolet, il a fait un très bon livre qui s'appelle « La santé par l'Ayurveda ». Et vous allez retrouver tout ce que j'ai pu vous dire, mais avec beaucoup, beaucoup plus de précision. Et voilà. Et il y a un très, très bon livre aussi, c'est « Vaidya ». Vaidya, ça veut dire médecin. Atreya Smith, c'est le traité de diététique ayurvédique qui est excellent, avec beaucoup, beaucoup de détails. Après, peut-être plus simple, mais qui est aussi... quand même très très complet, c'est le livre de Kiran Vyas qui a fait les centres de Tapovan, et c'est le grand guide de l'Ayurveda. Donc je vous dis les grands auteurs, c'est David Frolet, Vaidya Atreya Smith, et puis autrement bien sûr Kiran Vyas. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à dans un mois pour un nouveau sujet. À bientôt, et puis merci Nathalie d'être restée.
Merci à vous d'être parmi nous.
Au revoir.
Au revoir.